Vous écoutez
RMC. RMC, la punchline GG.
Nous allons lancer un plan d'adaptation de la pratique sportive au changement climatique. Dès cet hiver, le sport peut être au cœur de cette volonté d'accompagner la transition écologique. Les Français ne peuvent pas accepter qu'on leur demande de faire des efforts, si les grands acteurs n'en font pas. Le sport fait partie des acteurs qui doivent se montrer exemplaires.
Alors, rien n'échappe à l'oreille attentive de Siri. C'était chez nos confrères de France Info cette semaine. Notre nouvelle ministre des Sports envisage donc de ne plus faire jouer les matchs de sport en plein air le soir. Pourquoi ? Comment ? Ah, parce que ça consomme trop d'énergie en électricité pour les éclairages et du coup, ben, on pourrait organiser les rencontres en journée. Reste à savoir si, le cas échéant, une telle mesure aurait un réel impact écologique et si les diffuseurs et le public seraient partants. Mais bon, si on commence à s'intéresser à des détails, hein, comme dirait l'autre. Du coup, cette question pour vous, les GG. Le sport est-il, oui ou non, l'ennemi de l'écologie, Marion Bartoli ?
Non, c'est pas un ennemi, mais il faut faire attention.
Marie Martineau.
Alors, tel qu'il a été envisagé depuis des décennies, oui. Maintenant, il peut complètement devenir son ami.
Allez, je retiens le oui. Cyril Marais. Non, non. Pour Cyril. Avant de vous donner la parole pour ces débats, on accueille Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico.
Salut à tous.
Tu m'as l'air en pleine forme, mon cher Nicolas. On est ravis que tu aies fait ce petit détour par notre studio parce que on voulait se demander avec toi si finalement notre ministre des Sports n'est pas allé un peu vite en besogne avec ce petit effet d'annonce.
On jouera à 9h la saison prochaine. C'est une super idée pour vendre notre championnat aux diffuseurs, ironise un président de Ligue 1 après la sortie de la ministre des Sports mardi matin. En quelques minutes, l'annonce d'une possible fin des rencontres nocturnes à l'hiver prochain prend une ampleur assez importante. La Ligue nationale de rugby publie même un communiqué et demande le respect des équilibres économiques. Amélie Oudéa-Castéra est donc obligée de préciser ses propos auprès de plusieurs médias. Elle rappelle que tous les acteurs seront associés à l'élaboration du plan national du sport face au changement climatique et que ce sujet n'est pas tabou. Lors d'une audition de 2 heures devant l'Assemblée nationale mercredi, la ministre précise que son plan national n'est pas de nature, je cite, à être un élément perturbateur des compétitions ou des modèles économiques du sport en France. Un groupe de travail pour évoquer ce sujet sera finalisé fin 2022. Cette décision sur les rencontres nocturnes pourrait avoir de lourdes conséquences économiques. Si l'on prend l'exemple de la Ligue 1 ou du Top 14, en hiver, la totalité des matchs devrait alors se jouer en plein jour, ce qui n'arrange ni les diffuseurs ni les spectateurs. Ce sont souvent les rencontres les plus exposées médiatiquement, ce qui pourrait entraîner des pertes financières importantes en billetterie et en droits télé. L'exemple est aussi valable pour beaucoup de sports amateurs. Les décisions passeront donc par de la négociation. Depuis la fin du Covid, les clubs et les fédérations cherchent de nouvelles recettes pour boucler leur budget. Ils sont conscients qu'il faut modifier certaines pratiques sans être trop brutal. Ce n'était peut-être pas la meilleure des annonces au meilleur des moments pour la nouvelle ministre des Sports.
On a parfois l'impression qu'on fait un métier passion. Hein. On va saluer quand même la conscience professionnelle, Nicolas Pelletier, qui s'est quand même infusé les 2 heures d'allocution de notre ministre des Sports devant le Sénat. Ça bosse un petit peu, hein, quand même. Hein. Vous croyez que ça se fait par l'opération du Saint-Esprit, quand même. Merci beaucoup, Nicolas. Tu restes évidemment avec nous si tu souhaites intervenir dans ce débat. Je vais me tourner vers Cyril. Tu m'as dit non, pour toi, Cyril Marais, le sport n'est pas l'ennemi de l'écologie.
Non, il n'est pas l'ennemi, mais en fait, aujourd'hui, moi, ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois, on cherche à remettre la faute sur les autres. On dit, bah voilà, le sport, c'est problématique, voilà, pour l'écologie. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ça touche tout le monde, en fait. Tout le monde doit se sentir concerné par l'écologie et pas seulement dire, le sport, c'est la vitrine, ils doivent montrer l'exemple à tout le monde. Puis je pense que en supprimant les matchs du soir, du samedi soir, je veux dire, les téléspectateurs, ils aiment regarder leurs matchs le soir. Si tu commences à supprimer ça, ça va plus créer des problèmes que de trouver des solutions. Donc voilà, je trouve que c'est un peu problématique de toujours taper sur les autres et puis plutôt voilà. Pour moi, c'est pas trouver des solutions.
Tu penses que c'est une déclaration un petit peu démago finalement que ça va.
C'est de l'écologie punitive.
Marie-Martine Noir, c'est un concept qui nous plaît ici, ouais, dans les grands sur lequel on a eu l'occasion de débattre. Je t'écoute, développe.
Bah, si tu y penses, je crois que c'est pas une vraie façon de prendre les choses. Et il y en a plein d'autres en plus, donc c'est pas comme si on en manquait. Moi, je t'ai répondu oui, parce que je pense qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est le réchauffement climatique. L'écho du réchauffement climatique, c'est les gaz à effet de serre, c'est notre bilan carbone. Et le sport là-dedans est loin d'être irréprochable, que ce soit les événements... internationaux ou nationaux qu'on organise, JO, Coupe du Monde, Championnat, le Tour de France, tout ce que tu veux, le total bilan carbone est pas bon. Il nous fait nous déplacer. Enfin, on peut pas se voiler la face et on peut pas continuer à dire ouais, non, il y a rien à voir, circuler, mettons ça sous le tapis. Pour autant, aller jusqu'à éteindre les vouloir éteindre les lumières dans les matchs le soir et tout. Enfin, là on touche à c'est trop violent, ça marche pas et c'est punitif et je pense que c'est pas bon. Par contre, créer des compensations, ça on peut le faire, ça on sait le faire, c'est-à-dire que dire à un club bon ben on continue à organiser pour le plaisir de tout le monde le match à 21h mais par contre on plante des arbres ou mais par contre on investit dans la sauvegarde de l'eau ou mais par contre on monte l'exemple et on fait en sorte qu'il y ait plus une seule bouteille en plastique à la buvette. Enfin, tu vois ces choses-là, oui.
Alors,
là,
il y a des efforts qui ont été faits en ce sens-là quand même dans les stades. Il faut bien quand même le reconnaître. Mais c'est vrai que c'est intéressant, plutôt être dans l'action que dans la restriction.
Servons-nous
ou l'interdiction.
De... Exactement. Mais c'est ce que là, on est en train d'essayer d'opposer l'écologie avec l'économie du sport. Et alors qu'on peut complètement faire converger les deux. Et c'est le problème. Quand tu élargis de l'écologie aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont persuadés que écologie égale stop au progrès et grosse barrière sur l'économie, alors que ça peut être complètement constructif. Donc, ouais, j'en ai marre qu'on oppose les deux, quoi.
Marion, le sport de haut niveau doit faire sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Absolument, parce que c'est chaque petite action qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un réel changement. Pour l'instant, effectivement, le sport n'est pas encore adapté à l'urgence climatique, mais je vais te dire que c'est un petit peu à l'image de notre société globalement qui ne s'adapte pas assez vite à l'urgence climatique. Alors, pour connaître très bien Amélie Oudéa-Castéra, qui a travaillé à la Fédération Française de Tennis pendant quand même un petit moment, c'est une fille d'une intelligence extrême. Et je ne peux pas penser qu'elle ait fait cette annonce sans y avoir mûrement réfléchi. Je pense que ce qu'elle a voulu obtenir, c'est de dire qu'effectivement, sur tous les matchs qu'elle a joué en soirée, alors certainement qu'elle va pas arriver à obtenir que tous ces matchs-là soient dépassés en journée, ça c'est certain, mais je pense pas qu'elle s'y attendait. Mais en revanche, que certains matchs soient arrivés à déplacer en journée, je pense que c'est la raison pour laquelle elle a voulu faire cette annonce, effectivement créer un petit peu un engouement médiatique pour avoir un certain degré de pression et degré de levier sur la Fédération Française de Football, sur les acteurs qui les clubs et les médias. Après, sur les éclairage, moi je pense que ça serait quand même beaucoup plus adapté de changer les éclairages des stades, de placer sur des systèmes d'éclairage intelligents. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de nouvelles technologies qui sont faites dans les éclairages. Alors, je suis pas une spécialiste totale de tout ce qui peut être fait en écologie, mais je pense qu'on peut utiliser les LED, on peut utiliser des systèmes un peu plus intelligents pour produire justement moins d'empreintes carbone, comme le disait Marie. Il y a une rénovation énergétique, de toute façon, de manière globale, à effectuer sur tous nos équipements sportifs en France, qui sont quand même, pour la plupart, des passoires énergétiques, et qui donc, même pour des gens qui viennent faire du sport amateur, malheureusement, voilà, ils viennent faire quelque chose qui leur font du bien, qui est du sport et qui est quelque chose de noble, mais par les installations sportives que nous avons effectivement en France aujourd'hui, la plupart sont quand même extrêmement énergivores, et donc là-dessus, il y a quand même une réflexion globale à avoir, mais je pense pas que... comme le disait Cyril, il fallait absolument dire que le sport est extrêmement néfaste pour la planète. Je pense qu'effectivement, on va pas assez vite, qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a des actions qui sont faites. Le Tour de France fait le tri-tour pour justement essayer de recycler tous les déchets qui sont jetés, soit par les coureurs cyclistes, soit par les spectateurs qui regardent au bord des routes. Avoir une caravane qui suit derrière avec plus de moteurs électriques, des moteurs à essence ou diesel. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises, mais est-ce que ça va assez vite? Ça, c'est la grande question. À mon avis, je pense qu'on pourrait quand même aller un tout petit peu plus vite et faire un tout petit peu plus.
Bah, c'est vrai que, par exemple, ce qu'on pourrait rétorquer à la ministre, c'est par exemple, laissez-nous les matchs le soir, mais essayez d'organiser des moyens pour les supporters, je sais pas, d'arriver en transport en commun au stade, des moyens de laisser sa voiture à la maison. Nicolas Pelletier.
Là où Marion a raison, c'est que l'annonce qu'elle fait mardi matin, c'est mûrement réfléchi. Tu fais pas une annonce comme ça quand t'es ministre. Sur l'une des matinales les plus écoutées, sans avoir une arrière-pensée, elle veut obtenir quelque chose derrière, en fait. Donc c'est ça, c'est mûrement réfléchi de faire cette annonce-là mardi matin, alors que t'as l'actualité des Jeux Olympiques, et en plus ça a éclipsé l'actualité des Jeux Olympiques pour parler que de ça pendant toute
la journée.
C'est
pas parce que c'est mûrement réfléchi que c'est intelligent. Hein.
Ah non,
c'est qu'elle l'a pas dit à la volée, quoi. Mais après, on peut être d'accord ou pas.
Hein. Cyril ?
Non, mais oui, c'est mûrement réfléchi, mais moi je trouve pas... C'est un peu dur, mais je trouve quand même cette annonce, elle a quelque part, elle est ridicule un peu en fait.
Déconnecté quoi.
Ouais, parce qu'en fait aujourd'hui, tu vas pas aller mettre des néons économiques, de chez Ikea pour sur un stade de foot quoi. Je veux dire, moi,
On embrasse nos amis suédois d'ailleurs qui font des superbes produits.
Non, mais tu vois, sur les ampoules que tu mets, tu peux mettre des LED. Oui, enfin, oui, tu peux arriver à avoir des systèmes d'éclairage. Je ne parle pas de néon et IKEA pour aller éclairer Insta, mais tu peux mettre des LED, tu peux mettre une manière d'éclairer qui va consommer moins en termes de kilowattheure et moins d'énergie pour même une ville, tu vois, tout simplement. C'est quand même un budget d'éclairer tous ces stades.
C'est pas aussi simple que ça, dans le sens où il y a aussi une empreinte carbone sur la fabrication de ces choses-là. Quand tu fais un chantier pour changer tout l'éclairage d'un stade, et ben, il faut un certain nombre d'années pour retomber sur tes pattes en termes d'empreinte carbone. Enfin, le sujet est quand même vraiment.
Après, je veux dire, il y a des sports tels que la Formule 1 où ils font Brésil, Japon, Europe, Brésil, Asie, c'est quand même beaucoup plus important que des néons dans un stade.
Après,
je sais qu'il faut tout prendre en compte, il n'y a pas de problème, mais oui, il y a d'autres combats, tout à fait.
Il y a effectivement des bilans carbone ou qui sont comparables entre les différents sports, mais les détracteurs, justement, ceux qui en ont ras-le-bol que le sport passe pour le vilain petit canard dans la lutte contre l'écologie, et dans la lutte pour l'écologie, ils vous disent, non mais si on va par là, les sports qui a priori ne polluent pas, bah, on peut toujours trouver. Regardez la natation, hein, finalement, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de combustion et tout. Mais comment on fait pour entretenir les piscines? On fout des produits chimiques. Le golf, hein, on embrasse Jean-Christophe Drouet, le golf, visiblement, on fait de mal à personne, on est en plein air, on
joue.
Il y a des parcours, c'est 5000 mètres cubes d'eau par jour, parfois pour l'entretien.
Mais t'as des sports qui se posent des questions, tu vois, par exemple sur les sports d'hiver, Simon, pour pas te couper, les farts, le fartage des skis, c'est un gros souci, tu vois, sur le fluor que tu déposes sur la nature et tout. Donc les marques, elles se sont posées la question et tout le monde réfléchit ensemble à modifier ça. Le plomb que tu tires avec ta carabine, c'est pareil. Enfin, il y a déjà des trucs qui sont mis en place, des processus qui sont réfléchis pour l'écologie est déjà ancrée dans la réflexion de bon nombre de marques de sport, d'acteurs du sport. Donc je sais pas, j'ai
même les balles de tennis,
tu vois, les balles de tennis aussi. Donc cette sortie, elle est un peu bizarre quand même, tu vois. On se demande, attends, on a l'impression qu'on se fait faire une leçon.
Du coup, il y a que le judo qui est écologie.
Il y a des éclairages.
En quoi sont fabriqués les tatamis? C'est quoi comme matière?
C'est de la paille recyclable.
C'est de la paille recyclable. Les tatamis en paille recyclable. Tu m'en diras tant.
Elle a quand même tenu aussi à défendre les sports mécaniques mardi matin lors de son audition et lors de son interview sur France Info. Elle a dit les sports mécaniques sont eux-mêmes au rendez-vous de la transition écologique. Donc c'est pas mal aussi. Et elle dit cette volonté d'aller vers ces véhicules propres est au cœur de l'ambition de la FIA, de la Fédération Internationale de l'Automobile et de cette discipline. Donc c'est pas ce que tout le monde, ce que les spécialistes aussi de l'automobile disent, mais bon, elle défend le sport automobile depuis quelques temps.
Le tatami s'est fait en polyuréthane aggloméré, mon cher Cyril Marais. Il ne faut pas en manger, en tout cas pas le matin. Hein. C'est pas très bon pour la santé.
Il y a des contre-vérités.
Non, on ne doit pas tirer à boulet rouge sur le sport, mais on doit faire des efforts.
Sur le Tour de France, alors on part du Danemark, donc grosse empreinte carbone, on emmène tous les camions, les cars, les machins là-bas et tout. Et en même temps, on balance des spots de pub qui sont plutôt intelligents et qui t'expliquent que si tu es à moins de 5 km de ton travail, quand tu es, ta maison est située à moins de 5 km de ton travail, tu vas mettre moins de 20 minutes en vélo et c'est plutôt cool d'essayer d'y aller en vélo et que finalement tu vas apprécier et tout. Ça, c'est super positif comme message et ça fonctionne. Mais tu vois, des fois, il y a des distorsions entre la réalité et les bons messages qu'on veut faire passer. Alors, je me demande je me pose quand même des questions.
Mais tu vois, dans le Tour de France, quand il passe dans le Galibier, qui est quand même au cœur du Parc National des Écrins, qui est d'une extrême protection en termes de biodiversité, et que tu vois tous les gens, les déchets qui sont jetés, les coureurs qui jettent des gourdes, enfin tout ce que le Tour, effectivement, est capable de générer en termes de déchets. Enfin, je veux dire, le Tour de France, tu passes à un sport qui est quand même effectivement plus écologique que ça, tu pédales sur un vélo, tu peux pas faire plus écologique que ça, mais quand c'est fait à niveau professionnel, avec tout ce que ça génère, bah forcément, ça a une empreinte carbone qui est assez catastrophique. Alors, même si encore une fois le ASSO a vraiment essayé de prendre le problème à bras le corps et de réagir et de faire quelque chose, ça c'est certain, mais on peut pas dire qu'à la fin du Tour de France on a une empreinte carbone dont on peut être fier, quoi, tu vois. Donc il faut quand même que le sport, ça fait partie encore une fois de quelque chose de global. Alors ça sera peut-être des petites actions, mais je pense que des petites actions mis bout à bout, on arrivera quand même à avoir une empreinte sur ce problème qui est majeur et qui doit nous mobiliser.
ASO qui a développé les toilettes sèches, hein, c'est pas une blague, sur dans la zone média qui accompagne effectivement
la caravane du Tour de France.
Et pour compléter ce que disait Marion, vous savez qu'il y a des coureurs désormais qui sont exclus ou qui prennent des sanctions lorsqu'ils jettent leur bidon hors zone. Il y a désormais des zones pour jeter des bidons. En revanche, on continue à rouler avec des voitures, hein, à moteur thermique dans la caravane pour distribuer des choses en plastique aux supporters du Tour de France.
Si on commence à aller recharger la voiture en plein Tour de France, ça peut.
Et en plus, je suis sûr qu'il y a des véhicules électriques au sein de la caravane du Tour de France. Marion, rapidement.
Les voitures donc des équipes de coureurs doivent être électriques. Alors malheureusement, les caravanes, effectivement, des sponsors, c'est des vieux camions qui polluent vachement. Mais par contre, les voitures qui suivent les coureurs, etc., doivent être des voitures à moteur électrique.
Des vieux camions. Mais je suis certain. Je suis certain. D'ailleurs, on pourra vérifier ça.
Quand tu balances son saucisson, effectivement, dans la foule, là, effectivement, le camion qui balance le saucisson, là, je pense qu'il est un peu moins écologique. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire?
On en a parlé ce matin. On a des bobs qui circulent dans la rédaction et qui s'arrachent à prix d'or, effectivement, distribués dans la caravane publicitaire du Tour de France. Merci beaucoup, Nicolas Pelletier, d'être venu nous éclairer dans ce débat. On voit bien que cette question est pleine de contradictions. Le sport, effectivement, doit faire sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais bon, on peut pas.
Ça va, on peut pas
tout accepter.
Il est pas lourd, Nico, ce matin.
C'est vrai, tu trouves aussi, mais on vient de voir s'il était en forme. Ouais. Pourtant, bon, il a rempli sa mission. Merci beaucoup, Nicolas. Attention, en quittant le studio.